Vous écoutez On lit pour vous.
Quand l'amour s'invite sur le banc des joueurs. Un échange entre les libraires James Dixon et Geoffroy Delorey, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Depuis plusieurs mois, la série canadienne Game Changers de Rachel Reid ainsi que Heated Cavalry, l'adaptation réalisée par Jacob Tierney et diffusée sur Crave, connaissent un immense succès. Avec plus de 3,7 millions de livres vendus et plus de 10 millions de visionnements par épisode, cette romance sportive entre deux hommes aura été une des séries de l'année en Amérique du Nord. Et ce n'est pas fini. La saison 2 sera diffusée au printemps prochain, un septième livre est prévu en juin 2027 et les traductions françaises paraissent cet été. James. Devrait-on être surpris de la popularité de Heated Rivalry? Geoffroy. Oui et non. Quand Joie de Livre a ouvert, notre cofondatrice, Claire, était déjà fan et insistait pour qu'on en prenne des piles. Avant même la première bande-annonce, elle était convaincue que ce serait gigantesque. Comme fan de romance queer, j'avais envie d'y croire, mais l'absence de précédent modérait mon optimisme. Claire aura eu raison. Bien qu'on ait commandé des Game Changers jusqu'à ne plus savoir où les mettre, on a quand même fini par en manquer. Le soir de la première mondiale de la série à l'Université Concordia, nous avions organisé un événement festif en présence de l'autrice et les acteurs principaux nous ont rejoints. Ils parlaient tous les trois de leur vision paisible des prochains mois. Tout laisse croire que l'ampleur de l'engouement les a eux-mêmes pris de court. James. Qu'est-ce qui explique ce succès? Geoffroy. Comme plusieurs fans de romance, je ne crois pas que le genre doive encore expliquer ses succès. On pose rarement, ou différemment, la question devant la popularité du Witcher ou de Game of Thrones, par exemple. Trop souvent, on limite les accomplissements en romance à leur vente, on les traite comme des curiosités sociologiques, des phénomènes portés par la magie des algorithmes, quand ça n'engendre pas une panique morale devant le regard et le désir féminin, alors que c'est un genre qui repose sur le talent, la passion et le travail de professionnels et de fans dévoués. Les raisons d'aimer ces séries sont multiples. Comme romance, elle raconte le triomphe de l'amour sur ce qui lui fait obstacle. Et même si l'histoire débute en 2008 et que le premier livre est paru en 2018, plusieurs de ces obstacles sont toujours d'actualité. L'homophobie systémique, culture de l'hypermasculinité, floutage de l'intime et de l'extime, empiètement de la sphère professionnelle sur la vie personnelle, inégalité économique, pression familiale, différences culturelles et communicationnelles, la Russie, etc. Les livres donnent à espérer que l'isolement puisse céder le pas à la communauté, que les façades fortes soient amadouées par une authentique vulnérabilité. Mais l'efficacité des œuvres dépend de leur exécution et de l'avis des fans aux événements à Joie de Livre. Tout a plu. Personnages, tropes, rythme, humour, tension romantique et écriture pour les livres, jeu, éclairage, trame sonore, angle de caméra et jusqu'au choix typographique pour la télésérie. Geoffroy. Quels sont les impacts de la série pour les communautés LGBTQ+ ? James. L'enthousiasme grand public des Game Changers, qui met en scène des identités sexuelles qui ont souvent été et sont encore stigmatisées, a suscité de nombreuses discussions quant à la représentation de groupes marginalisés. On peut lire des critiques des corpulences stéréotypées, de l'hypersexualisation des hommes qui aiment les hommes et de la spectacularisation du placard, c'est-à-dire du passage obligé de la honte, de l'amour qui n'ose pas dire son nom, à la fierté, la sortie du placard des personnages qui peuvent enfin revendiquer leur amour. S'il est difficile d'ignorer ces inquiétudes de la part de membres de la communauté, on ne peut pas non plus ignorer les potentiels effets positifs de montrer des personnages qui ne se conforment pas aux attentes masculinistes et hétéronormatives des milieux sportifs professionnels. Après avoir banni l'usage du ruban arc-en-ciel en 2023, la LNH s'est ravisée. Mais la Ligue reste timide en matière d'inclusivité. La passion pour la série aura, par exemple, inspiré les sénateurs d'Ottawa à proposer des maillots avec les noms Hollander et Rozanov au profit d'Ottawa Pride Hockey. Dans notre propre librairie, la série aura été l'occasion d'une célébration de la joie queer. Les soirées festives, projections et trivia autour de la série ont permis à une communauté de fans diversifiée de se rencontrer et de tisser de nouvelles amitiés. Le succès des Game Changers offre aussi plus de visibilité à d'autres romans sportifs queer. Pour les prochains mois, nous organisons des clubs de lecture de Crash Test d'Amy James S'embrasser dans l'ombre de Sean Martin et Cleat Cute de Meryl Wisner, un livre qui sera également adapté en télésérie. On peut espérer que ces succès inviteront les milieux du livre et de la télévision à donner une plus grande place aux histoires ainsi qu'aux artistes LGBTQ+, et que le public sera au rendez-vous. C'était « Quand l'amour s'invite sur le banc des joueurs », un échange entre les libraires James Dixon et Geoffroy Dolloré, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
Ces cellules créées en laboratoire sont-elles vivantes? Un texte de Carl Zimmer et Marco Hernandez du New York Times, paru le 3 juillet 2026 dans Le Devoir. En mélangeant des dizaines d'ingrédients, des chercheurs ont synthétisé des cellules simples qui se nourrissent, grandissent, se reproduisent et se disputent leur nourriture. Ces cellules ne sont pas encore tout à fait vivantes, mais elles présentent la plupart des caractéristiques de la vie. La vie n'est pas binaire, a déclaré Kate Adamala, la biologiste de synthèse qui a dirigé les travaux. C'est pourquoi j'hésite à dire que c'est vivant. Il n'y a pas de ligne claire, même si nous aimerions beaucoup qu'il y en ait une. Jusqu'ici, les scientifiques n'avaient jamais réussi à produire une cellule capable d'accomplir autant de fonctions, a souligné John Glass, biologiste de synthèse au G. Craig Venter Institute de La Jolla, en Californie, qui n'a pas participé à l'étude. C'est éblouissant qu'elle soit parvenue à réunir tous ces éléments, a-t-il dit. Drew Handy, biologiste de synthèse à l'Université Stanford, a résumé ainsi la percée. C'est une cellule qui a été construite, pas engendrée. Elle est fabriquée, mais elle fait ce que font les cellules. Madame Adamala a baptisé sa création Spodcell, en référence à son apparence de pomme de terre. Plutôt que de la breveter, elle et M. Handy organisent une communauté de scientifiques qui aura pour objectif de rendre les Spodcells plus pleinement vivantes et de les adapter à de nouveaux types d'expériences. Avec leurs collègues, ils ont fondé un organisme de recherche sans but lucratif qui, selon M. Handy, consacrera des centaines de millions de dollars à ses travaux au cours de la prochaine décennie. Des centaines de scientifiques devraient s'y joindre. Comprendre la vie. Nous allons nous souvenir de ce moment, a affirmé Roseanne Azia, biologiste computationnelle à l'Université du Missouri, qui ne participe pas au projet. Madame Adamala et ses collègues ont mis en ligne un compte-rendu de 190 pages de leurs travaux. La recherche est en cours d'évaluation en vue d'une publication dans une revue scientifique. Les scientifiques espèrent que les cellules synthétiques leur permettront d'apprendre sur la vie des choses que les cellules naturelles ne peuvent pas révéler, notamment sur des questions aussi fondamentales que le nombre de gènes nécessaires à une forme de vie minimale. Mais les cellules synthétiques pourraient aussi, un jour, être conçues pour accomplir des tâches que les cellules naturelles ne peuvent pas faire, comme fabriquer de nouveaux types de médicaments ou retirer de grandes quantités de dioxyde de carbone de l'atmosphère. En théorie, des Spodcells modifiés pourraient produire une vaste gamme de protéines que les cellules naturelles ne peuvent pas être amenées à fabriquer, voire des substances chimiques toxiques comme du carburant pour fusées. Désormais, nous pouvons envisager de faire une chimie que nous commençons à peine à comprendre, a dit M. Glass. Le problème de la vie telle que nous la connaissons, tient à sa complexité mystérieuse et désordonnée. Notre propre ADN contient des dizaines de milliers de gènes, ainsi que des millions d'interrupteurs moléculaires qui les activent ou les désactivent. Les scientifiques n'ont qu'une idée très partielle du rôle de nombreux segments d'ADN. souvent, un gène qu'il croit comprendre se révèle accomplir d'autres tâches que celles auxquelles il s'attendait. Depuis les années 1990, plusieurs laboratoires se sont attaqués à de petites parties de ce problème. Certains ont perfectionné des recettes permettant de fabriquer des bulles creuses à partir de molécules huileuses. D'autres ont trouvé des moyens d'encapsuler de simples molécules génétiques à l'intérieur de ces bulles. Mais les scientifiques avaient du mal à assembler ces éléments en systèmes plus complexes, sans parler de quelque chose qui pourrait être qualifié de cellule. Le problème de la reproduction. Au cours des dernières années, Madame Adamala s'est attaquée à l'un des défis fondamentaux, la division cellulaire. Une cellule naturelle se divise avec l'aide de protéines qui s'assemblent en anneaux, fixés à sa paroi interne. L'anneau se resserre progressivement et étrangle la cellule jusqu'à la séparer en deux. D'autres protéines agissent comme des treuils, déplaçant l'ADN et d'autres molécules vers les cellules en formation afin qu'elles disposent des ingrédients nécessaires pour continuer à vivre. Au départ, Madame Adamala a tenté de construire une version simplifiée du système naturel. Puis, elle a décidé de ne plus du tout chercher à imiter les véritables cellules. Des biophysiciens avaient observé que, lorsqu'ils fixaient des protéines sur une membrane, ils créaient une pression qui la faisait se courber. Madame Adamala et son équipe ont créé des bulles capable d'attraper des protéines flottant autour d'elle. Lorsqu'une bulle en recueillait suffisamment, sa surface commençait à s'incurver vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle se scinde en deux. L'idée était simple, mais il a fallu une année d'essai pour la faire fonctionner en laboratoire. « Mais quand ça marche », a dit Madame Adamala. Ce succès a incité l'équipe à tenter de construire une cellule synthétique complète. Une soupe de molécules. La première étape a consisté à créer un bouillon de molécules nécessaires au fonctionnement d'une cellule. La recette a fini par comprendre une centaine de types de protéines et de molécules simples indispensables à des réactions chimiques cruciales comme la fabrication de nouvelles protéines à partir de gènes. Les chercheurs ont aussi doté leurs cellules synthétiques de gènes empruntés à un virus et aux microbes omniprésents. Escherichia coli. Ils ont retenu 36 gènes pour des fonctions de base, comme la copie de l'ADN. Après avoir mélangé ces ingrédients dans un milieu liquide ou soupe, les scientifiques ont ajouté les composants des membranes. Ceux-ci se sont spontanément assemblés en bulles, chacune emprisonnant une partie de la soupe. Bon nombre de ces bulles ont fini par enfermer le bon mélange de gènes, de protéines et d'autres molécules, et elles ont commencé à exécuter les réactions chimiques observées dans de véritables cellules. Pendant que les nouvelles cellules flottaient dans des flacons, Madame Adamala et ses collègues leur ont ajouté de la nourriture. Les cellules ont absorbé de petites molécules par des canaux situés à leur surface. Les scientifiques ont aussi introduit de petites bulles chargées de protéines et d'autres molécules trop grosses pour passer par ces canaux. En heurtant l'une de ces bulles et en fusionnant avec elle, la cellule pouvait se nourrir des friandises qu'elle contenait. À mesure qu'elle se nourrissait, les cellules grandissaient. En quelques heures seulement, elles étaient devenues assez grosses pour se diviser. Les scientifiques ont ajouté au flacon une protéine spéciale qui s'accrochait à la surface des cellules et les forçait à se courber vers l'intérieur. Une fois les cellules scindées en deux, les deux nouvelles cellules continuaient de croître. la théorie de l'évolution dans une éprouvette. Les spot cells grandissaient donc, se nourrissaient et se reproduisaient. Elles se sont même révélées dotées d'une capacité rudimentaire d'évolution. Madame Matamala et ses collègues ont créé une version mutante de la cellule qui se liait plus fortement aux bulles remplies de nourriture flottant autour d'elle. Pour la tester, ils ont préparé un mélange composé à parts égales de spot cells originaires et de spot cells mutantes. Les cellules se sont disputées la nourriture pendant 5 générations. Les mutantes ont fini par devenir plus nombreuses que les originales, ce qui laisse croire qu'elles les surpassaient dans la lutte pour la nourriture. C'est la réussite qui change vraiment la donne ici, a estimé Mme Zia. Les scientifiques pourront mettre diverses cellules synthétiques en concurrence les unes avec les autres et en faire rapidement émerger de plus sophistiquées. Des défis à relever. Malgré toutes ces preuves de vie, la spot cell présente encore d'importantes lacunes. D'abord, elle ne peut pas fabriquer l'usine moléculaire qui produit les nouvelles protéines, appelées ribosomes. Les cellules peuvent transporter tous les gènes dont elles ont besoin pour construire des ribosomes, mais, pour une raison inconnue, les différentes pièces ne s'assemblent pas. Pour l'instant, la cellule synthétique ne peut survivre que quelques générations avec un régime de laboratoire spécial. Mais les versions futures pourraient être plus robustes, ce qui soulève la possibilité que quelqu'un utilise un jour les spot cells de manière contraire à l'éthique, peut-être même pour fabriquer une arme. Monsieur Andy soutient qu'une communauté de chercheurs qui adhèrent à la science ouverte sera mieux préparée pour éviter qu'un tel scénario se produise. Nous pouvons avoir ces conversations maintenant, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse et de nous retrouver ensuite tous en réaction, a-t-il dit. Monsieur Andy compare les spot cells à une version biologique du Wright Flyer, l'avion rudimentaire que les frères Wright ont utilisé pour effectuer en 1903 le premier vol contrôlé et soutenu, ouvrant ainsi l'ère de l'aviation. Le Wright Flyer, qui a volé pendant 12 secondes, ne vous donne pas un 737, a dit M. Andy. Ce n'est que le début. C'était « Ces cellules créées en laboratoire sont-elles vivantes ?» un texte de Carl Zimmer et Marco Hernandez du New York Times, paru le 3 juillet 2026 dans Le Devoir.
Se sucrer le bec avec des glaces du Québec, un texte de Nathaël Morissette, paru le 14 juillet 2026, dans la presse. Avec la saison chaude, les pots de crème glacée alignés dans les congélateurs d'épicerie trouvent rapidement preneur. Ceux qui souhaitent garnir leur cornet avec un produit d'ici ont quand même du choix. À côté des Häagen-Dazs, Nestlé et autres Ben & Jerry's, plusieurs marques québécoises ont réussi à se tailler une place. Diversité de produits, bon rapport qualité-prix et fabrication artisanale sont autant d'ingrédients qui permettent aux entreprises d'ici de concurrencer les grands. On est dans les ligues majeures. Je veux vous le dire tout de suite. Lance sans embâge Pierre Morin, copropriétaire de Top Glacier. Si le nom de l'entreprise qu'il dirige est peu connu du grand public, celui des marques de crème glacée qu'elle produit réveille assurément les papilles de beaucoup. Bill Boquet, Chagnon, Kaiser, Lambert et même les gélatis commercialisés par Stefano sont tous fabriqués dans les deux usines de Top Glacier, l'une à Montréal, l'autre à La Chute. L'entreprise est donc un acteur important au rayon des crèmes glacées. Mais on n'est quand même pas gros si on se compare à des entreprises comme Häagen-Dazs et Ben & Jerry's, qui sont dans le même marché que nous, dans les glaces premium, souligne M. Morin. Il ajoute dans la foulée que ces gros acteurs ne laissent pas beaucoup de place aux autres. Se diversifier et aller voir ailleurs, il faut donc jouer du coude ou du pot pour être présent dans le congélo. On s'est dit qu'on allait se spécialiser dans des produits et des catégories où ces entreprises-là ne sont pas présentes, répond Pierre Morin. Top Glacier tente de se distinguer avec des produits comme Cool Whey, des desserts glacés moins sucrés et plus protéinés, ainsi que ceux fabriqués à base de lait d'avoine de marque Kaiser. On connaît quand même pas mal notre marché, dit Pierre Morin. On essaie de sucrer moins. Ces grosses compagnies-là, ce sont de gros bateaux. Ça ne bouge pas vite. Nous, on a la capacité de bouger plus vite. Et en plus, notre lait et notre crème, au Québec, ils sont exceptionnels. L'entreprise québécoise a également décidé d'allonger la saison de la crème glacée en vendant ailleurs. L'entreprise a même commencé à commercialiser certains de ses produits de marque Bill Bokeh en Chine. En mai 2026, deux conteneurs de 80 000 pots ont été expédiés à destination de l'Empire du Milieu. L'entreprise a aussi un pied au Mexique, où il fait chaud 12 mois par année, avec Bill Bokeh, Solo Fruit et Cool Whey. Et pour ajouter à ses activités, Top Glacier produit la marque Oatly, des desserts à base de lait d'avoine pour le marché américain. Une tradition et un prix. Du côté de la mythique laiterie de Coaticook, on reconnaît également qu'il n'est pas facile d'aligner ses pots à côté de ceux des grosses multinationales. La laiterie qui existe depuis 86 ans mise donc sur son prix. On veut offrir le meilleur prix pour 100 millilitres, explique Roxane Provencher, directrice des communications et du marketing. Vérification faite après avoir consulté les circulaires des différents supermarchés, les pots de crème glacée Coaticook affichent, dans la plupart des cas, un prix pour 100 millilitres inférieur à celui des marques nationales et privées. Celui-ci se situe autour de 32 sous pour 100 millilitres contre 1,10 $ pour 100 millilitres pour la Häagen-Dazs, 1,16 $ pour 100 millilitres pour la Ben & Jerry's et 35 sous le 100 millilitres pour la Chapman's. Ces prix varient d'une chaîne à l'autre et de semaine en semaine, mais dans presque tous les cas, celui du pot de Coaticook était inférieur lorsque l'on comparait les prix ordinaires. Ceux-ci étaient affichés pour les circulaires en vigueur du 2 au 8 juillet. L'entreprise qui produit annuellement 20 millions de litres de crème glacée à son usine de Coaticook mise aussi sur le goût et la nostalgie. Les gens nous disent souvent que c'est la crème glacée que leurs parents ou leurs grands-parents mangeaient, raconte Mme Provencher. D'autres marques québécoises. En ce qui concerne les givrés, qui fait un produit plus artisanal, on mise également sur plusieurs fronts pour assurer sa rentabilité. En plus de ses trois bars laitiers à Montréal, un quatrième ouvrira bientôt, l'entreprise vend ses crèmes glacées chez une centaine de détaillants. Toutes les glaces, environ 75 000 pots annuellement, sont produites dans une usine située sur le plateau Mont-Royal. C'est là qu'on fabrique aussi les compotes de fruits du Québec que l'on mélangera au sorbet, les bûches de Noël et des cornets artisanaux. De cette façon, l'entreprise, fondée il y a 15 ans, peut faire fonctionner sa fabrique 11 mois par année. La fabrication des cornets commence dès le mois de février. On est le seul fabricant artisanal sur le marché de la distribution au Québec, nous dit Alexandre Deslauriers. Il y a eu quelques joueurs qui se sont ajoutés, mais ça n'a jamais duré longtemps, parce qu'il faut vraiment avoir les reins solides. Notre avantage, c'est qu'on est diversifié. La distribution nous permet d'augmenter notre production, mais ce n'est pas nécessairement la part du marché qui est la plus payante pour nous. Les bars laitiers représentent la plus lucrative, mentionne-t-il. D'autres crèmes glacées d'ici ont aussi leur place dans les congélateurs des supermarchés, comme la Baie, produite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La coopérative Agropure en produit également, notamment la marque Natrel sans lactose, mais aucun de ces desserts glacés n'est préparé au Québec. La crème glacée, un luxe? Par ailleurs, dans un contexte où les consommateurs scrutent plus que jamais les prix à la loupe, la crème glacée est-elle un luxe qu'ils peuvent encore se payer? C'est sûr qu'avec l'inflation, les gens cherchent le meilleur prix, reconnaît Roxane Provencher. Mais les gens ont besoin d'un réconfort. Et la crème glacée fait partie de ce réconfort. En plus de mettre un pot de crème glacée dans son panier à l'épicerie, une sortie à la crèmerie du coin figure encore parmi les gâteries que les consommateurs peuvent s'offrir, selon Alexandre Deslauriers. Je dirais qu'aller dans un bar laitier, ça reste le petit luxe que tout le monde peut encore se payer. Les gens ne sont pas rendus encore à couper dans celui-là. C'était « Se sucrer le bec avec des glaces du Québec », un texte de Nathaël Morissette, paru le 14 juillet 2026 dans la presse.